Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Je vous avertis, nous ne parlerons pas de COVID pendant les deux prochaines heures. Ah voilà, je vous vois très heureux de la situation. Non, ben en fait, on s'est dit qu'on allait attendre 5 heures, 17 heures cet après-midi pour savoir un peu ce qu'il adviendra là, de la décision du gouvernement par rapport au congé scolaire et par rapport aux vacances des fêtes. Je vous rappelle que nous allons diffuser ce point de presse du premier ministre François Legault qui sera en présence de son ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Il y aurait aussi le ministre de l'Éducation qui va se joindre à eux, Jean-François Roberge, et bien sûr le docteur Horacio Arruda. Donc, ça va être cet après-midi en fin de journée, donc à 17 heures. Soyez à l'écoute. En attendant, nous, ce matin, on voulait parler de santé. Donc, il y a un lien, mais cette fois, c'est la santé et le bien-être des hommes qui nous a intéressés ce matin. Puis, on se disait, quelle belle journée pour en discuter. C'est la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. C'est la 7e année qu'on en discute. Et je trouve que c'est intéressant de parler de la santé des hommes parce qu'on le sait, que ça soit de santé mentale ou de santé physique, les gars ont tendance à moins parler de ce qui les chicote puis de leurs mots, M-A-U-X, en mots, M-O-T-S. C'est encore difficile pour beaucoup d'hommes d'articuler leurs émotions, de le dire publiquement. Ils vont garder ça, ils vont avoir tendance à garder ça pour eux. J'aimerais savoir, est-ce que c'est encore comme ça que vous vous sentez ou est-ce que, à force d'entendre des hommes prendre la parole, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de prises de parole masculines au fil des années, est-ce que ça vous incite, vous, à vous ouvrir plus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en meilleur état émotionnel? On parle désormais beaucoup plus de santé émotionnelle aussi, là. Est-ce que vous vous sentez bien, à l'aise d'exprimer vos émotions? On se souvient d'une certaine époque, nos pères, nos grands-pères, ça parlait pas ben, là, ça jasait pas fort, ça gardait ça en dedans, puis ça allait se défouler en allant bûcher du bois, hein? On a tous connu ça. Ou bien ça fumait une cigarette en allant prendre une marche. Des fois, ça allait acheter une pinte de lait, ça revenait pas. T'sais, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, l'homme est présent. Le jeune père de famille a envie de s'occuper de ses enfants, de parler du travail avec sa conjointe. Les rapports ont changé. Et je trouve ça intéressant parce que le thème de la Journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes, justement, cette année, c'est les temps changent, parce que les temps changent. On va en discuter avec Geneviève Landry, qui est directrice générale de l'Entraide pour hommes. Elle est présidente pour le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour Geneviève.
Bonjour Isabelle.
Comment vont les hommes québécois, Geneviève, aujourd'hui? Et en particulier, je trouvais que c'était intéressant, tu peux poser la question, en temps de pandémie.
En temps de pandémie, les hommes ne vont pas bien. Mais est-ce que les hommes disent qu'ils ne vont pas bien? Ça, c'est une autre chose. Effectivement, les hommes ont tendance vraiment à minimiser leurs problèmes. Hein, on les a beaucoup éduqués comme étant des bons guerriers. Ben, faut que je sois fort, faut que je sois performant, je dois être autonome. Donc, parler de mes difficultés, c'est plus difficile. Mais avant même de pouvoir en parler, Isabelle, je dois sentir que je vis une difficulté, que ça va pas bien. Ça va pas bien parce que si je sens que je shake par en dedans, je me sens plus fatiguée. Alors que les hommes ont tendance à porter une carapace, donc ils voient pas ces signes-là. Bien souvent, ils ne les voient pas. Et à partir du moment où ils ressentent ces signes-là, spontanément, les réactions qu'on voit encore aujourd'hui, même sachant, c'est minimiser le problème en pensant que ça va s'arranger tout seul, ou essayer soi-même de s'en sortir. Donc, moi, je pense que les hommes n'en veulent pas si bien que ça en temps de pandémie. Et moi, ce que je peux constater, Isabelle, c'est que ça vient alimenter ou mettre en surface, ça vient amplifier des problèmes qui existaient déjà. Oui,
effectivement.
Moi, ouais. Mais ça vient amplifier les tensions dans la vie familiale et conjugale. Ça vient amplifier c'est toutes les inquiétudes économiques. Et ce qu'on constate aussi, bon, même si les hommes ont tendance à moins parler, il y en demeure pas moins que la gang de gars au bureau, la gang de hockey, c'est quand même un exutoire important. Et là, ils l'ont plus.
Ouais. Est-ce que tu dirais, Geneviève Landry, que les gars ont comme un peu perdu leur repère? Tu vas dire, oui, ben il y a bien du monde qui ont perdu leur repère en ces temps de pandémie. Mais pour un homme, c'est encore plus délicat peut-être d'avoir perdu, justement, tu dis sa gang de chums, tout ce qui servait de soupape.
Mais les points, je pense, les repères qui sont peut-être plus perdus qu'au niveau de la femme, c'est les points au niveau du travail. On constate que, tu sais, les hommes, toute leur identité passe beaucoup par là, par leur titre, par leur profession, par ce qu'ils font dans la vie. Et là, le télétravail, le nombre d'emplois perdus, c'est sûr qu'à ce niveau-là, là, ça l'amène à une plus grande fragilité, alors que chez les femmes, les fragilités sont très différentes là, de ce que les gars vivent actuellement.
Mmh. Tu me permettras, Geneviève, de donner nos numéros aux hommes qui nous écoutent.
Oui.
Et à leurs proches aussi, parce que si vous vivez justement avec un homme qui aurait envie et surtout qui aurait besoin d'avoir de l'aide, que vous aimeriez peut-être des conseils de Geneviève ou simplement témoigner de ce que vous vivez, je voudrais vous entendre. Puis bien sûr, les hommes, profitez-en, là. On a une heure pour jaser de ça ensemble. J'aimerais ça vous entendre ce matin. Qu'est-ce qui a amplifié votre anxiété, si vous en aviez déjà une avant la pandémie? Est-ce qu'effectivement, les difficultés économiques, hein, c'est sérieux? Là, on voit, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, qui sont travailleurs autonomes. Le repère du travail est très important. Geneviève Landry vient de l'expliquer. Les hommes, vous avez beaucoup tendance, les femmes aussi, remarquez, là, mais les hommes, c'est traditionnel. Vous avez tendance à vous retrouver d'abord et avant tout dans des images qui sont reliées à votre travail. Là, il y en a moins de travail. Hein? C'est pas évident. Il y a toutes les questions aussi d'enjeux de santé mentale. La santé émotionnelle, c'est pas évident d'avoir un équilibre toujours. C'est le cas de tout le monde, mais je pense qu'en particulier, les gars ont besoin de se faire rassurer là-dessus. 514-790-9850 pour témoigner de ce que vous vivez et de l'extérieur. Partout au Québec, si vous nous écoutez sur Internet également, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Geneviève Landry, comme directrice générale de l'Entraide pour hommes, tu rencontres à peu près 1000 hommes par année.
Oui,
hein, ça fait beaucoup de gars.
Ça fait beaucoup de gars.
Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres, Geneviève?
Mais en fait, je pense que tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est les hommes qui viennent, c'est pour toutes sortes de difficultés. Hein. C'est bon, là, on a nommé perte d'emploi, tout ça, mais ce qu'on va voir beaucoup, rupture amoureuse, séparation, et on sait qu'en tant que COVID, il y en a beaucoup. Et parfois, ça peut être simplement une petite difficulté, là, t'sais, entourant sa paternité, là, t'sais, la difficulté finalement, t'sais, de peut-être de gérer son enfant, d'appliquer des mesures disciplinaires qui ont de l'allure. Fait qu'on voit toutes sortes de problématiques. De plus en plus aussi, on va voir les hommes qui dévoilent leur abus sexuel durant l'enfance. On entend beaucoup parler, Isabelle, des femmes qui sont agressées, tout ça. Mais il existe aussi les hommes qui ont été abusés sexuellement durant l'enfance. Et ce que les hommes découvrent finalement en venant à l'entraide pour hommes, ils découvrent qu'ils ont entendu peut-être un petit peu trop longtemps avant de venir. Souvent, ils viennent sur une pression extérieure où ils viennent quand ils sont vraiment plus capables de supporter la situation. Donc, moi, c'est comme, oh my God, comment ça se fait que j'ai attendu aussi longtemps? Ce qui est beau, c'est qu'ils découvrent à quel point de pouvoir en parler, c'est soulageant. Ça fait, il y a une tension qui descend. Et souvent, ils vont penser, à la base, quand ils arrivent à l'entraide pour hommes ou dans un autre organisme, parce qu'il y en a quand même 75 au Québec, organismes, quand ils arrivent à l'entraide pour hommes, ils ont peur, ils ont l'impression que d'aller chercher de l'aide, ça veut dire qu'ils vont devoir pleurer puis raconter toute leur vie dans une première rencontre, alors que c'est pas ça. T'es pas obligé de pleurer nécessairement là pour être capable de parler de tes choses. Et effectivement, on va suivre son rythme. De toute façon, même moi, là, la première fois que je rencontre quelqu'un, j'ai pas envie de lui parler de tous mes secrets là. Donc, il y a un lien de confiance qui s'installe et à partir de ce moment-là, là, on suit son rythme. Donc, ce qu'il découvre, c'est effectivement, ça fait du bien. Puis effectivement, je suis pas obligée de tout dire d'abord. Je peux aller à mon rythme. Et l'autre découverte assez extraordinaire, c'est de dire, mais je ne suis pas seule à vivre ça. Mm-hmm. Compte tenu que les hommes ont moins, tu sais, sont moins portés que les femmes à se confier à leurs amis, à leur entourage, ils ont toujours l'impression d'être tout seuls au monde à vivre cette difficulté-là. Donc, pour eux, de découvrir qu'ils sont pas tout seuls, puis parfois, c'est pas si grave que ça. D'autres fois, oui, mais ça se répare aussi. Alors, de dire, bon, il y a des gens autour de moi, je suis pas seule, et c'est aussi possible de s'en sortir. Je pense que c'est les plus belles découvertes là, que ces hommes-là peuvent faire.
Mmh. Tu sais, je parlais tout à l'heure, justement, en introduction, je parlais du fait qu'à une certaine époque, c'est vrai que c'était très difficile pour les hommes de prendre la parole. Aujourd'hui, ils ont plein d'exemples autour d'eux, quand même, de gens qui pourraient les inciter à parler plus. Est-ce qu'on voit quand même une avancée là-dessus? Est-ce que les hommes, effectivement, parlent plus? Parce que tu viens encore de dire, Geneviève, pour un gars, c'est pas évident de s'ouvrir. C'est toujours aussi tabou ou on a vraiment quand même fait des pas de géant là-dessus?
Ça prend 3 générations, Isabelle, avant de vraiment de voir un changement durable. Alors, oui, tu sais, il y a du changement, Par contre, d'ouvrir la porte aux émotions, d'ouvrir la porte à parler, c'est beaucoup plus long. Tu sais, même dans les écoles secondaires, là, tu sais, celui qui va pogner, là, c'est l'adolescent qui a bu trop d'alcool, l'adolescent qui fait une course d'auto. On est encore un peu dans ces stéréotypes-là. Par contre, une fois qu'on leur donne la parole, les gens disent, ben, ça doit être difficile, tu sais, intervenir auprès des hommes, ils parlent pas. Non, mais une fois que tu donnes la parole, là, ils en ont beaucoup à dire. Ouais. ils ont beaucoup, beaucoup retenu. Fait que c'est un peu comme, mais ça dépend des hommes. C'est pas 100% des hommes qui parlent pas. Tu sais, on faut voir ça un peu comme un continuum. Moi, je pense que c'est un continuum. T'as au bout du continuum l'homme que j'appelle, tu sais, un peu en libération, qui a appris à se connaître, qui s'assume, qui assume son identité, qui assume qu'il peut parler. Et à l'autre extrémité, t'as les hommes beaucoup plus traditionnels où là, eux, ils ont vraiment tout intégré les stéréotypes. Et là, c'est beaucoup plus difficile pour eux parce qu'ils veulent garder leur image, ils veulent garder tout leur orgueil en place. Et entre les deux, t'as ce que j'appelle les hommes en transition. C'est-à-dire, souvent, je vais avoir des hommes qui me disent, ben là, moi, avec ma conjointe, je parle, on divise les tâches, tu sais, je sens que j'évolue avec elle. Par contre, je travaille dans le milieu de la construction. Alors, c'est sûr que quand j'arrive au boulot, ben là, je me mets une carapace, je me mettrai pas à parler de mes affaires, ça passera pas. Donc, tu sais, ça dépend vraiment des milieux. Et ce qui est étonnant, c'est pas une question d'âge. Les gens pensent que, bon, les 60 ans et plus sont tous du côté traditionnel à 100%, alors que les hommes parlent tous. Ce n'est pas nécessairement le cas.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Ça dépend quelle éducation j'ai eue, quelle expérience j'ai eue. Si moi, je me mets à parler de moi comme gars, en retour, je deviens la risée, mais là, je vais me taire. Donc, quelle image projette mon entourage? Est-ce que je suis encouragée à le faire? Comment je suis éduquée? Et quel type d'émission puis de revue que je lis aussi? Parce qu'Isabelle, on a juste à regarder les médias, les publicités. Il y a des films où on continue d'entretenir là, tu sais, ces stéréotypes.
Écoute, complètement, t'as raison. Puis des fois, moi, je réagis comme si j'étais un gars. Je me dis, mon Dieu, si j'étais un gars... Je serais furieux là, tu sais, de voir qu'on me dépeint soit comme un épais là, finalement, un colon là, qui ou un gars qui est tellement faible que c'est sa blonde qui le gère puis qui le mène là, la germaine habituelle. Puis je t'avoue que comme femme, je trouve que les germaines, à un moment donné, ça fera. On n'est pas toutes des germaines.
Non.
On a quand même des façons plus douces d'intervenir aussi. Alors, c'est soit t'es le colon cave qui comprend rien, qu'il faut que sa femme y apprenne tout, ou alors c'est le gars qui est plus fort que tout, qui roule dans son pick-up, puis il soulève
la
garnotte. Il boit de la bière, soulève la garnotte, puis tu comprends? Fait qu'il y a comme pas d'équilibre entre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre, mais... L'équilibre est beaucoup plus entre ces deux positions, j'imagine. Écoute, on va s'arrêter ici, Geneviève, bien sûr. On va poursuivre après la pause là-dessus. J'aimerais ça entendre des hommes là-dessus. J'imagine que ces images véhiculées par les médias, par les publicitaires, beaucoup là, dans les pubs sont beaucoup là. Est-ce que ça vous force encore à l'avoir encore, cette carapace? Il y a beaucoup de gars qui nous écoutent, qui sont des camionneurs, qui sont sur les chantiers de construction. J'aimerais savoir si vous êtes obligé de l'avoir encore, cette carapace dont Geneviève nous parle. Vous, vous êtes finalement, vous seriez plus enclin à vous ouvrir, à parler de vos émotions, mais les gars autour, tu sais, il faut que tu sois un gars, un vrai gars. C'est quoi un vrai gars en 2020? J'aimerais ça vous entendre. 514-790-9850. 1-866-790-9850. On parle de la santé des hommes aujourd'hui. Santé psychologique, santé physique. Parce qu'à 11h05, il sera question de prostate également. Ah, je vous dis, on est vraiment dans la santé des gars aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle idée aussi parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à l'écoute. Et ça vous donne l'occasion de prendre la parole. Il y a un chiffre que j'ai trouvé ce matin là, qui montre à quel point il y a un vrai enjeu de détresse psychologique aussi chez les hommes. C'est une étude qui nous disait à l'automne dernier, fait que c'était même avant la pandémie, un homme sur quatre qui disait se sentir déprimé, bon à rien ou encore désespéré. Ça, c'est une étude qui avait été faite auprès d'hommes, en particulier à Montréal. Mais je pense que... Puis imaginez, là, c'est pas rien, là, déprimé, bon à rien, se sentir bon à rien. Comment voulez-vous vous lever le matin si vous avez l'impression que vous êtes bon à rien, que vous ne servez plus à grand-chose? Et ça montre à quel point il y a une détresse psychologique importante chez nos hommes, qu'il faut en discuter, il faut leur donner la parole, comme à Kevin. Bonjour, Kevin.
Oui, bonjour, Isabelle.
J'aimerais vous entendre ce matin. D'abord, comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien.
Vous vouliez me parler de votre statut, de votre rôle de père. Vous trouvez qu'on en demande beaucoup aux pères?
Ouais, je trouve que constamment, on est en train d'élargir un petit peu le rôle, ce qu'on demande en fait d'être le parfait père. On se compare là sur les réseaux sociaux, puis ouais. Constamment tout ce qui ressort, c'est ben moi je fais ci les fins de semaine, moi je suis capable de faire ça, j'ai du temps pour faire ci, tu vois le rôle parfait typique là des gens qui sont projetés un petit peu sur les médias sociaux. Alors que je trouve que l'envers du décor, parfois, il est peut-être un petit peu moins joli, si on veut.
Moins glorieux, effectivement, parce que la vie va vite, hein, puis on n'a pas tout le temps de faire tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Mais le fait qu'on dit, vous savez, les réseaux sociaux, il faut en prendre puis en laisser, c'est une image gelée d'une certaine réalité, souvent d'ailleurs planifiée, organisée. Là, les photos qu'on voit souvent, là, ceux qui les montrent, ils peuvent passer une heure dessus. Là. Le fait de savoir ça, Kevin, est-ce que ça vous aide pas à relativiser un peu et à vous dire, bon, ben ça, c'est eux, mais moi, je sais que je suis un bon père pareil?
Oui, on peut dire qu'on est un bon père, mais parfois, on se met de la pression. Je me dis constamment, Isabelle, je pars avant l'émission de Paul Arcand le matin, puis ouais. J'arrive souvent, puis je manque l'émission du soir en revenant à la maison. Je me dis, Caroline, c'est normal, tu sais, que je fasse des chiffres comme ça? Puis j'arrive à la ouais. maison, puis j'ai la mine basse des fois, puis tu t'en vas à table avec les enfants, puis t'essaies d'être heureux, puis tu leur dis, bon, je vais prendre le temps pour jouer avec eux autres, puis tu te rends compte qu'au bout de la ligne, ben, t'es obligé d'aller te coucher, te mettre au lit avant tes enfants, parce que t'es brûlé, t'es plus capable.
Êtes-vous capable d'en parler avec votre conjoint?
C'est mes amis, moi, j'entendais votre intervenante qui parlait, là, ouais. Des psychologues. Moi, c'est le groupe d'amis, c'est comme qu'elle disait, je joue au hockey, justement, je joue au hockey, bon, une fois semaine. Puis de ce temps-ci, ben il n'y en a pas, évidemment. Puis ça fait du bien, ça relâche la pression. Puis même si cette soirée-là, faut que je me couche tard, ben je me dis, ça en vaut la peine quand même, parce que c'est le moment dans ta semaine que tu dis, bon, ben écoute, on se parle, on se jase de n'importe quoi, mais c'est libre, tu sais, t'as pas de jugement, t'as pas rien. Puis on se rend compte finalement qu'on est tous un petit peu un comme les autres. Tandis que quand tu te compares à ce qui est projeté, ben je trouve que des fois, c'est pas mal loin de la réalité.
Oui. Puis là, êtes-vous capable de jouer au hockey avec vos chums comme
avant? Non,
ou...
non.
Non, hein, c'est
non,
ça?
Non, pas du tout. Évidemment qu'on est tous en arrêt, sauf que ça se peut, là, c'est ça qu'on... Pour le temps des fêtes, qu'on transgresse un petit peu les recommandations, du sens que j'ai un chum que je voyais pratiquement aux deux semaines, que j'ai pas vu, ça fait un an. Il y a trois jeunes enfants, je les ai pas vus, ça fait un an. Ben, pas juste un an. Pratiquement un an, donc choses que tu...
Ça, c'est tough, ça, c'est difficile. Oui, tout à fait.
Très difficile.
Mais j'en viens à votre partenaire de vie. Est-ce que je vous avez pas tout à fait répondu quand je vous disais, êtes-vous capable de lui en parler?
Non.
Je comprends que vous n'en parlez pas, là, hein, c'est ça. Vous
entendez parler... Dans le rôle typique là, masculin, là, c'est-à-dire pourvoyeur à la maison, le gars, il pleure pas. Le gars, il fait ses affaires, il faut qu'il s'occupe de la famille, puis subvenir aux besoins. Mais c'est drôle parce que, tu sais, ma blonde, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Elle va me dire, je t'ai jamais vu pleurer. Mes enfants vont me dire, je t'ai jamais vu pleurer. Mais des fois, je suis en voiture tout seul. Je me promène, là, en revenant d'un long chantier, puis j'entends, ben, j'entendais la musique des Cowboys Fringants, l'Amérique Cowboys, puis tu sais, je me retrouvais un petit peu dans leur chanson, ce qu'ils disaient, puis Colin, ben, je suis seul dans mon char, puis je me mets à pleurer, alors que je suis même pas capable de faire ça devant ma famille ou mes enfants. C'est comme s'il y avait un blocage, là, c'est spécial quand même.
Pourquoi vous le faites pas devant votre blonde puis vos enfants?
Je sais pas. C'est comme si il y avait un blocage. C'est comme si on tenait dur comme fer entêté à notre espèce de rôle là, de masculin de père, puis une espèce de fierté un peu mal placée peut-être. Là. Je sais pas comment dire ça, mais... Mm.
C'est peut-être un conditionnement aussi, là, Kevin, à force de se le faire dire. Il faut que tu sois fort. Puis, est-ce qu'on vous a dit, vous, quand vous étiez... enfant, pleure pas, Kevin, faut que tu sois fort. Est-ce qu'on vous l'a dit? Avez-vous l'impression que vous l'avez beaucoup entendu? Non? Pas forcément, non?
Pas du tout. Non, c'est très bonne famille, mais avec des valeurs, là, tu sais, très terre à terre, là. C'était mécanicien, ça va au travail, puis il fait les chiffres, là, de remorquage d'ennui, puis il travaille pratiquement, là, de 7h le matin à 8h le soir sans arrêt. Donc, j'ai été élevé dans une espèce de mécanisme là, de l'homme, tu sais, qui va travailler, puis qui pourvient pour la famille, puis très typique, là.
Oui. Mais vous êtes tellement bon, Kevin, à parler, puis moi, je vous encourage peut-être à vous ouvrir un petit peu là-dessus, si ça vous tente, avec votre blonde, puis Des fois, quand les autres nous disent, des fois, il y a des femmes aussi qui vivent ça, là, qui, des fois, c'est pas juste les hommes. Là, on parle des hommes parce que je pense que c'est peut-être plus généralisé chez vous, mais quand on nous dit, tiens, on t'a jamais vu pleurer, c'est comme une porte ouverte à dire, tu sais, tu peux te lâcher, là, tu peux nous faire confiance, on ne jugera pas. Je vous dis ça comme ça, mais juste pour vous dire que vous avez le droit, puis regardez, pour vous, Kevin, on met les cow-boys fringants. C'est une magnifique chanson.
Hein? Oui, c'est une très belle chanson. Je trouve que ça rejoint beaucoup de personnes. Je pense que c'est peut-être que les gens apprécient.
Hey, je vous trouve formidable. Passez une très, très belle journée, Kevin. Restez à l'écoute parce que je pense qu'il y a d'autres hommes qui vont témoigner également. On va à la pause. Bien. On revient tout de suite.
Merci pour votre émission.
Merci.
Le Florida Turnpike, et demain soir j't'ai à mon manie. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y'a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur.
Et on en profite pour saluer tous les camionneurs qui nous écoutent, tout le monde sur la route, les gars sur les chantiers de construction. Lâchez pas.
Excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah.
Avant de passer à nos prochains auditeurs, je vais vous dire, moi, l'histoire de Kevin et son témoignage tellement fort m'a beaucoup touchée. Je voudrais entendre notre invitée Geneviève Landry, qui est directrice générale de l'Entraide pour Hommes là-dessus. Bon, Geneviève?
Bien, moi aussi, ça m'a beaucoup touchée, Isabelle, le témoignage de Kevin. Et il est tellement bien parti. Il est conscient de tout ça. Il voit dans quoi il y a un malaise. Il voit la pression d'être père. Tout est là, en fait. Tout est là. Ce que j'aimerais dire à Kevin, c'est comme qu'on porte un sac à dos. Ouvre ton sac à dos, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait plus ton affaire, mets-les à la poubelle. Puis remets dans le sac à dos ce que toi, t'as envie. C'est tout ce qui reste à faire. Vraiment beau témoignage qui va venir rejoindre. On entend beaucoup ça, la pression des pères. Là.
Mais il y avait raison, c'est vrai. C'est vrai qu'on en demande beaucoup aux hommes. On en demande beaucoup aux pères aussi. On est habitué de le faire pour les mères, mais c'est vrai que les hommes aussi vivent un peu le même genre de choses. Ce qui fait dire qu'on devrait se rejoindre dans le milieu puis s'en parler.
Tout à fait. Puis en fait, ce que je constate, on vit, les parents, qu'on soit hommes ou femmes, on vit la même pression. Ouais. Ce qui se passe actuellement, Isabelle, c'est que les mères en ont tellement fait. À un moment donné, ils arrivent à un mur, ils font « Moi, je suis plus capable », et là, pitch tout ça dans le cours du père, puis là, du jour au lendemain, il y a à composer avec tout ça. Mais enfin, je pense vraiment que mère et père, hommes et femmes, on doit se tenir par la main, avancer ensemble, puis en discuter justement pour que les choses changent, et faire des petits pas à la fois, là.
Ouais. J'ai Alain qui m'écrit, ce qu'on discute pas assez aussi, c'est est-ce que la femme, la conjointe, est vraiment prête à écouter son homme quand il s'ouvre comme ça? Et je trouve que c'est une très bonne question à poser.
C'est une bonne question. Ce qu'on va voir au niveau plus parental, c'est que l'éducation des enfants a été beaucoup dans le territoire maternel. Ça appartient à la mère. Moi, je le sais comment donner le biberon. Je le sais comment raconter une histoire. Il y a des gars, ils avaient des fois qui me disent, moi, je veux m'impliquer. Tu sais, je raconte une histoire. Et là, ma blonde, d'ailleurs, elle me dit, ben là, arrête, t'es énervé en donnant trop de détails. Ils dormiront pas. Fait que, je pense que comme femme, comme conjointe, comme mère, faut accepter parfois que les choses ne sont pas faites comme moi. On est différents, hommes et femmes, et c'est correct. Donc, il y a tout le territoire maternel qu'on a. Il y en a qui le font, mais il y en a d'autres qui ont finalement à délaisser, là, effectivement. Ouais. Et est-ce que les femmes, on est prêtes à écouter un homme? T'sais, moi-même, je me suis déjà surprise à déjà un conjoint qui pleurait pas beaucoup. Puis la première fois qu'il s'est mis à pleurer, c'est sûr que j'ai un peu figé. D'un côté et d'un autre, je pense qu'il faut comprendre nos enjeux. C'est ça, d'y aller lentement, puis d'apprendre les différences et de s'accepter. C'est normal que si demain matin, je change mon comportement, l'autre va être un peu figé, puis va dire, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas habituée. Fait que, je pense que ça prend un petit peu de temps.
Oui. On a avec nous Hubert Mention, qui est un auteur, il est conférencier également. Hubert, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Ça fait un moment qu'on s'est parlé. Comment oui. allez-vous, Hubert?
Ah, ben je vais très bien. Moi, ma santé mentale, jusqu'à présent, c'est bon.
C'est vrai. Vous allez beaucoup dans la nature, d'ailleurs. Vous en profitez hein, pour... Vous dites la nature, elle est bonne contre le stress. C'est gratuit. On aura l'occasion, d'ailleurs, de revenir là-dessus en deuxième heure d'émission parce qu'on a la visite de François-Guy Thivierge qui aussi, en ce moment, passe beaucoup de temps sur les montagnes et dans la nature. Mm-hmm. Hubert, on s'est déjà parlé. Vous avez écrit là-dessus aussi le sentiment amoureux qui peut amener jusqu'à la déprime, la dépression. Vous avez entendu le témoignage de Kevin qui a dit beaucoup de choses. Dans le fond, on parle de santé émotionnelle des hommes.
C'est ça. On parle de la santé émotionnelle et moi, je pense que... vous savez que dans la Perse, donc ce qui est l'Iran d'autrefois, il y a très longtemps, dans la Perse antique, toutes les qualités que nous, dans notre culture, nous estimons être des qualités masculines, c'était considéré comme des qualités féminines. Et l'inverse, c'est-à-dire que ce qui était demandé aux hommes, c'était d'être ce que nous appelons féminin, hein, c'est-à-dire de connaître beaucoup de poésie, d'être très raffiné dans son truc, de parler beaucoup de sentiments, etc. Et ce qu'on demandait aux femmes, c'est ce qu'on demande ici aux hommes. Donc je crois qu'on ne doit jamais oublier l'aspect culturel des relations hommes et femmes, et je crois que, en gros, ce qui a été fait, c'est qu'on a un peu caricaturé la situation et on a attribué tout ce qui est le monde sensible et le monde émotionnel aux femmes, et qui est le monde intérieur, et tout ce qui est le monde extérieur aux hommes. Mais après avoir fréquenté beaucoup, beaucoup d'hommes et avoir parlé en profondeur avec eux, je me demande si en fait, on ne s'est pas complètement trompé. Et en faisant ça, d'une part, on enferme les hommes dans le monde extérieur, on bouche un peu leur sensibilité, et d'autre part, on met sur les femmes un poids énorme. Parce que ce qui se passe beaucoup, c'est que les hommes étant obligés de vivre dans ce monde extérieur, de se battre, etc., ils sont obligés par leur culture, en finissent souvent à se fermer intérieurement, à boucher un peu leurs artères émotionnelles. Et donc, ils sont complètement fermés et ils attendent alors de la femme qu'elle leur donne un accès au monde émotionnel. Et il y a beaucoup de couples, moi j'ai vu beaucoup de couples où c'est comme ça, où on a un homme qui est extrêmement rationnel, cartésien, ingénieur, entre guillemets, qui se retrouve avec une femme qui, elle, est complètement émotionnelle, sensible, etc. Et il lui demande de compenser ce que lui, il a perdu. Et donc, je crois que les hommes ont une difficile tâche devant eux, c'est de retrouver l'expression du sentiment. Parce qu'au fond, ce que la culture a fait, c'est qu'elle a interdit aux hommes de parler de leur sensibilité et elle a obligé les femmes à le faire. Et il faut que l'homme puisse retrouver en lui-même d'abord, parce que c'est pas tellement la question de le faire avec les autres, le droit d'être sensible. C'est magnifique un homme qui est sensible. Hein. On peut être très fort et être très sensible. Et je pense que c'est ça la beauté d'un humain, c'est les deux. Mais il faut que l'homme retrouve des mots pour se comprendre et retrouve l'accès à sa propre sensibilité. C'est très, très, très important, ça. On voit bien qu'on est dans un monde qui est fait par les hommes et pour les hommes, et c'est un monde qui n'est pas tellement agréable à vivre.
Mais qui est un poids même pour les hommes, donc, c'est ce qu'on entend.
Qui est un poids énorme pour les hommes. Et par exemple, il y a un tabou, par exemple, c'est que les hommes ne peuvent pas parler. Il y a plein de sujets dont les hommes ne peuvent pas parler. Par exemple, j'entends très rarement parler à un homme de la difficulté d'avoir une femme qui vient d'avoir un enfant et de se sentir éjecté de la relation qu'il y a entre l'enfant et la mère, par exemple. C'est un sujet dont il ne peut pas parler. Toutes ces difficultés intérieures, son sentiment d'impuissance, etc., il ne peut pas en parler non plus parce qu'il pense que dans son couple, s'il parle de ça, il va apparaître comme quelqu'un de fragile. Et s'il est fragile, alors il n'est pas vraiment un homme. Et s'il n'est pas vraiment un homme, sa femme n'en voudra plus. C'est ça qu'il pense.
Et est-ce que c'est vrai que les femmes ne veulent pas des hommes sensibles ou entre guillemets, fragiles?
Je crois que les femmes ont peut-être de la difficulté à accepter un homme fragile, parce que pour une femme, l'homme, c'est quand même le père. Et c'est une grande différence, parce que pour un homme, la femme, c'est quand même le côté mère. Et souvent, ils ont vu des mères en train de pleurer, en train d'exprimer leurs émotions. Donc, ils acceptent ça de la femme avec qui ils sont. Mais par contre, la femme n'a peut-être pas vu, elle, justement, son père pleurer, son père être fragile, etc. Et ça lui fait peur. Ouais. Mais comme je dis, moi, je dis souvent qu'il y a des appareils qui sont extrêmement sensibles, mais s'ils tombent par terre, ils ne se cassent pas. Ce n'est pas parce qu'on est sensible qu'on est fragile. Et au contraire, la sensibilité, moi je vois, la nature ne survit que grâce à sa sensibilité. Un arbre est capable de passer par des écarts de température incroyables parce que sa sensibilité est tout le temps en train de percevoir des choses de l'extérieur, de lui permettre de se préparer. C'est la même chose pour les animaux. Donc la sensibilité, c'est un atout énorme. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Et je crois, pour terminer, parce que je ne veux pas prendre votre temps trop longtemps, qu'avec l'intelligence artificielle qui arrive, il va vite avoir un moment où l'humain va se dire, mais en fait, la machine, elle calcule mieux que moi, elle raisonne mieux que moi, elle diagnostique mieux que moi. Qu'est-ce qui fait que je suis mieux qu'elle? Et ça va être la sensibilité.
C'est ce qui va nous rester, mais c'est ce qui va nous différencier. Oui, tout à fait.
Voilà.
Hubert Mention, c'était vraiment très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et justement, on a Francis, un auditeur, là, qui veut témoigner de ce qu'il vit. Vous dites, Francis, bonjour, que ce n'est pas évident de parler de sa santé mentale en général.
Non, en effet, c'est les réactions sont assez négatives en général.
Mm-hmm.
Pas tous, mais moi, j'ai eu un état de stress post-traumatique lié au travail.
Mm-hmm.
Et physiquement, j'étais un homme qui a l'air vraiment, je suis un colosse qui appelle. Donc, dès que j'essayais d'en parler ou que j'étais en pleurs, en larmes, que ce soit ma conjointe ou mes amis, ils étaient démunis. Et même, j'ai perdu des dizaines d'amis parce que j'ai parlé. Parce que j'ai osé m'ouvrir. Puis quand je dis m'ouvrir, moi, je suis pas gêné. Je veux dire, si j'ai un problème cardiaque, je vais en parler. C'est la même chose si j'ai un trouble de santé mentale.
Ouais.
J'en parle.
Mm-hmm.
J'ai pas peur de ça, mais je me rends bien compte de la réaction majoritairement. C'est soit qu'ils sont complètement démunis, ils ne savent absolument pas quoi dire, ou c'est du « change de sujet, puis je veux pas en entendre parler ». J'ai perdu une conjointe qui voulait absolument pas en entendre parler, ou qui respectait absolument pas ça, qui me ridiculisait avec ça. Donc, pour le moral, si tu vas pas consulter un professionnel, ben, t'as l'impression d'être vraiment seul au monde, là.
Et votre conjointe voulait pas en parler, voulait pas vous entendre en parler, pour quelle raison, d'après vous?
Probablement parce qu'elle savait pas quoi faire ou savait pas quoi dire.
Mm-hmm.
Je pense pas que ce soit de nature méchante, mais c'était vraiment fermé à la discussion.
Elle se sentait impuissante, oui. Mm-hmm.
Exact. Sauf que de rendre ça à la comme si c'était ridicule, c'est pas ça va pas aider non plus.
Mais non, c'est sûr.
Malheureusement, c'est des choses que j'ai vécues là, avant que je sois diagnostiqué. Ça a presque pris 5 ans. Moi, je cherchais juste à savoir ce que j'avais.
Mm-hmm.
Puis évidemment...
Fait qu'aujourd'hui, vous en parlez à qui? Vous en parlez à qui, Francis?
J'en parle à tout le monde qui veut l'entendre. Les meilleures réactions que j'ai, c'est ceux qui, en secret, ont quelque chose de similaire.
Oui.
C'est fou le nombre d'appels que j'ai d'anciens collègues qui vont pas bien puis qui m'appellent pour avoir du soutien, pour être compris, parce qu'ils savent que je l'ai vécu. Puis ça, ben je trouve ça le fun, parce que moi, de le fait d'en parler ouvertement, c'est un peu le but, c'est de dire, regarde, il y a rien de mal. On est humain, même si on est des hommes puis on fait un travail qui est excessivement difficile dans mon cas.
Ouais.
Ça veut pas dire que tu peux pas avoir d'émotion, là.
Oui, tout à fait. Vous êtes militaire, ex-militaire ou travailleur de...
Non, je travaillais dans une prison fédérale en santé mentale.
Oui, ouf, oui. Ça peut créer des situations extrêmement délicates, tout à fait. Merci, Francis.
Oui, ça fait plaisir.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On va aller à la pause. On revient tout de suite après.